Nous allons parler de la koinonia comme étant véritablement la communion. Ça veut dire communion. Koinonia égale communion. C'est un terme très utilisé dans le Nouveau Testament. Et cette communion de laquelle nous allons parler ce matin, elle va nous amener dans la découverte de beaucoup d'aspects différents, de plusieurs aspects différents, par rapport à ce que Dieu, ce que la Bible dit et déclare vraiment par rapport à ce qu'est vraiment la communion spirituelle. Regardez les premiers versets qui sont juste là comme introduction. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Et nous allons voir au travers de ce partage que la koinonia, la communion, c'est plus juste que de vivre un culte ensemble, mais c'est vivre quelque chose ensemble. Vivre quelque chose ensemble qui va au-delà de quelques rencontres ou quelques réunions. Et l'apôtre Jean va dire, eh bien, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vécu, ce que nous avons ressenti ou ce que nous avons connu de la part de Dieu, eh bien, c'est ça que nous partageons. La communion, la koinonia, c'est également un partage de choses que nous avons vécues nous-mêmes avec Dieu et que nous désirons, parce qu'il y a un feu, il y a un désir ardent en nous de partager avec les autres. Et puis, nous allons également découvrir que tout cela ne nous tombe pas juste du ciel comme ça, mais il y a un effort à faire. Il y a quelque chose à faire. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent « Moi, je crois en Dieu, mais j'ai un problème avec son personnel au sol. Moi, je crois en Dieu, j'ai pas de problème avec Dieu, mais j'ai un problème avec les chrétiens. » Et je suis très étonné de voir combien de gens sont des croyants, mais ils ont choisi de ne plus être dans la communion avec tout ce que cela veut dire avec les frères et sœurs. Ils préfèrent vivre leur foi seuls. Ils sont seuls avec Dieu dans la verticale, dans la communion verticale, mais la communion horizontale leur a tellement posé de problèmes qu'ils se sont retirés, repliés sur eux-mêmes et disent « Moi, je veux vivre ma foi seul. » Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le plan de Dieu et je voudrais que ce matin nous puissions avoir une ouverture de cœur pour que même s'il y a des personnes au milieu de nous qui ont peut-être, et je pense qu'on peut dire qu'on est nombreux à avoir vécu des déceptions, des blessures et de toutes sortes par rapport à cette communion qui a connu des naufrages, qui a connu des difficultés, des cassures même, des blessures profondes, des déceptions, des trahisons même, qu'il est possible que le plan de Dieu reste debout et que la koinonia, la communion spirituelle, est possible aujourd'hui. Malgré les tempêtes, malgré les échecs, je veux croire et je veux proclamer ce matin que la koinonia reste le centre du plan de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui en 2017. La koinonia, la communion, est avant tout un don du Seigneur. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous connecte les uns aux autres. C'est l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu communique avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La communion avec Dieu, c'est un cadeau. Avez-vous reçu ce cadeau? Êtes-vous en train d'établir cette relation intime avec Dieu? Est-ce que vous la vivez d'une manière intense? Vous savez, dans cette communion avec Dieu, il n'y a pas de plafond en disant « Ben, j'ai fait le tour de la question, j'ai tout vécu. » Non, vous n'avez touché que le bord de l'océan. Il y a tellement à vivre dans ce don, dans ce cadeau que Dieu vous donne, dans cette koinonia avec lui, dans cette communion avec lui. L'esprit de vie aimerait nous faire découvrir les richesses incroyables, les richesses infinies de la communion spirituelle. Ayons soif, frères et sœurs, d'aller plus loin encore dans cette communion verticale. C'est un don. La première église avait compris, et lorsque je lis le livre des Actes, en tout cas jusqu'aux 6 premiers chapitres, je découvre l'intensité, la force et l'impact de la koinonia. Regardez, ils avaient compris dès le départ, vous trouvez ça au chapitre 1, ils ont découvert dès le départ la force de la prière commune. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que vous avez vécu cela? Vous pouvez prier seul, vous pouvez prier des heures tout seul, des nuits entières tout seul. Et c'est très bien. mais vous n'avez pas accès à certaines promesses de la Bible si vous ne faites que prier tout seul. Car il est dit, lorsque deux se mettent d'accord pour demander une même chose, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont ensemble, je suis présent au milieu de nous. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là quand vous priez seul. Mais il y a une intensité, il y a une force, il y a une puissance du Saint-Esprit qui vient lorsque l'ensemble du peuple de Dieu est ensemble d'un même cœur. Et la première église avait compris dès le départ, Jésus venait juste de partir au ciel, lorsqu'ils se sont mis d'un commun accord pour persévérer dans la prière. Chapitre 4, lorsque la première église va rencontrer les difficultés, les persécutions et oppositions, il est dit par exemple au chapitre 4 que à peine avait-il été menacé par les pharisiens et les autorités religieuses de l'époque, qu'ils vont élever la voix tous ensemble. Donc ils avaient compris déjà que la koinonia, c'était avant tout dans la prière que ça devait se passer. Ensuite, regardez les textes suivants. Elle allait bien plus loin que simplement la prière. Ils étaient tous les jours assidus au temple et dans les maisons où ils rompaient le pain. Donc il y avait plus que simplement une réunion de prière. Il y avait des partages. Et regardez comme ça va encore plus loin, acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est ça l'intensité de cette première église. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais que tout était commun. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là de la koinonia? Frères et sœurs, je crois une chose, avec les événements qui ont occupé l'actualité, avec ce déchaînement de tornades et d'ouragans et de tremblements de terre, je crois fermement qu'une catastrophe naturelle va créer automatiquement une solidarité qui n'existe pas quand tout va bien. Dans nos régions occidentales, en particulier où nous sommes dans un monde beaucoup plus individualiste que dans les pays du Sud, que ce soit le continent africain ou le continent latino-américain, eh bien, cette solidarité, en Asie également, cette solidarité, elle est naturelle, elle est instinctive, elle est culturelle. Tandis qu'en Europe, elle est beaucoup moins forte à ce niveau-là. Je fais juste un petit raccourci, bien sûr qu'il y a des milliers d'exceptions à tout cela, mais je crois fermement que, et ça se vérifie partout, lorsqu'il y a une souffrance collective dans une société, il y a une solidarité qui va avec. Et tout à coup, on est poussé les uns vers les autres par la force des événements, par la force des choses pour s'entraider. Mais la première église, elle était un cœur et une âme parce que le Saint-Esprit était tellement à l'œuvre, mais aussi parce qu'ils étaient sous pression, sous la pression de la persécution et de l'oppression publique, mais aussi de l'État, selon les empereurs qu'il y avait à l'époque, mais aussi par la religion dominante des pharisiens, etc., dans le monde juif. La koinonia est un don du Seigneur. Retenez ça, c'est un don du Seigneur. Mais c'est aussi, regardez les textes suivants, c'est aussi un appel. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre vont parler de cela à tout bout de champ. Ils vont dire, mais soyez parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Il y a un accord, il y a une communication, il y a quelque chose qui doit être parfaitement uni. Vous allez me dire, mais la barre est trop haute, moi je ne peux pas être parfaitement uni dans tout avec mes frères et sœurs. Tenez un même langage, n'ayez pas de division parmi vous. Dans Philippiens, il est dit encore, soyez dignes de l'évangile, ou bien conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Et que j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Je reviens dans Actes, au chapitre 5, verset 12. Lorsque cette koinonia arrive à un tel niveau, comme elle était dans les premiers chapitres de Actes, donc au lancement de l'Église dans les premiers temps, regardez ce qu'il est dit au chapitre 5, verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu des peuples par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord, koinonia, tous d'un commun accord, au portique de Salomon, et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. C'est-à-dire que la communion entre eux était tellement intense, il y avait une telle onction que les gens qui regardaient, qui avaient envie de ça, ils n'osaient même pas se joindre à eux, ils n'étaient pas dans le coup. Avez-vous déjà remarqué? Et j'aimerais peut-être juste raconter comment ça s'est passé à ma conversion. Lorsque je me suis converti, j'avais été poussé par ma curiosité, à aller chercher quelque chose que je ne connaissais pas encore, mais j'étais en recherche. Et dans un voyage, fortuitement, j'ai rencontré un chrétien pour la première fois. J'avais 21 ans à l'époque. Et lorsque j'ai été touché par ce témoignage et que j'ai vécu une ambiance particulière dans ce lieu dont je vous ai souvent raconté plus ça en détail, mais je vais raccourcir ce matin. Et lorsque l'année d'après, une année est passée, je suis resté seul, je suis rentré en Belgique, je suis resté seul, j'avais cette nostalgie de ce témoignage. Je n'avais plus rien entendu pendant une année et je me disais, mais j'aimerais retourner là où j'ai été touché par l'amour de Dieu et par ce témoignage. Alors j'ai pris mon pouce, j'ai fait toute une journée d'autostop pour arriver dans ce même lieu. Et là j'ai rencontré encore une fois un chrétien, c'était d'ailleurs le même. Et lorsque lui m'a dit, mais va à Bruxelles parce que là il y a des chrétiens qui peuvent faire quelque chose pour toi que moi je ne peux pas faire, je ne peux pas voyager ici. Donc j'ai repris mon pouce et mes moyens de transport très rudimentaires à l'époque et je suis parti, attiré par cette soif, ce désir. Et lorsque je suis arrivé chez cet ami, il m'a conduit dans une réunion de prière le soir où nous étions quelques-uns. Et là, j'ai senti la communion entre les gens, mais moi j'étais à l'extérieur. Parce qu'eux, ils avaient l'Esprit de Dieu, ils étaient connectés à l'Évangile, ils étaient connectés avec le Seigneur, ils avaient été pardonnés de leurs péchés. Et moi, j'étais en recherche, mais je n'avais pas cette communion. Et je me sentais comme ces gens ici dans Actes, ils n'osaient pas se joindre à eux, ils n'étaient pas encore dans le groupe des chrétiens. Et moi, j'étais tout près, mais je n'étais pas dedans et je le ressentais tellement. Je me sentais distant. Eux, ils avaient un Dieu de près, moi j'avais un Dieu de loin. Eux, ils étaient dedans, moi j'étais à la porte, je n'étais pas dedans. Et je sentais ce malaise, mais j'avais tellement envie. Et ce soir-là, je me suis converti. Ce soir-là, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Alléluia. Je ne voulais plus être dehors. Mon ami, si tu te sens parfois à la porte, tu dis, mais ces gens-là, ils vivent tellement bien l'Évangile, ils ont une telle communion, moi j'aimerais tellement l'avoir, mais je ne me sens pas dedans. Si quelqu'un ce matin ne se sent pas dedans, ce matin, tu peux rentrer gratuitement, librement dans la présence de Dieu. Dans la mesure où tu te repens de tes péchés et que tu dis, Seigneur, viens dans ma vie, purifie-moi. Seigneur, connecte-moi, donne-moi la koinonia. Seigneur, connecte-moi à toi ce matin afin que je sois dedans et non pas à la frontière. Frères et sœurs, pour cela, vous devez désirer ces choses. Vous ne devez pas juste les entendre, vous devez les désirer. Et si, à ce moment-là, dans mes 21 ans, j'ai reçu un impact tellement fort qui m'a donné la force pour faire seul des choix très importants dans ma vie à ce moment-là, au point de laisser de côté ma carrière qui me souriait et d'entrer dans la voie du Seigneur comme j'ai pu prendre cette voie sans aucun conseil de personne. C'est parce que je suis allé chercher la communion. Je suis allé chercher ce que je voulais. Mes amis, vous avez besoin de cesser d'être des consommateurs passifs. Vous attendez que tout vous tombe dans les mains. Avec ça, vous n'irez jamais très loin. Mais si vous avez un désir brûlant dans votre cœur et que vous êtes prêt à faire un chemin pour aller chercher dans la prière ou quelque part ce que votre cœur appelle, ce que votre cœur demande, alors vous chercherez et vous trouverez. Vous frapperez et on vous ouvrira. Vous demanderez et vous recevrez. C'est la garantie que le Seigneur nous donne. Mais nous devons sortir de notre mode où nous sommes des gens passifs, où nous attendons tout des autres, tout de l'Église et tout du Seigneur, mais on ne bouge pas. Et on croit que tout le monde est contre nous, que ça marche pour les autres, mais ça ne marche pas pour moi. Frères et sœurs, je voudrais qu'il y ait un feu dans votre cœur. Ce feu que j'ai reçu, ce désir et cette ardeur de désir ne m'a plus jamais quitté, mes amis. Ne m'a plus jamais quitté. Vous recevrez si vous allez chercher les choses jusqu'au bout. Je continue le texte de Actes 5. Les multitudes des hommes et des femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On a porté les malades dans les rues. On les plaçait sur des litières, sur des grabats. Lorsque Pierre passait, son nombre au moins puisse les couvrir. La multitude accourait des villes voisines et apportait des malades et des gens tourmentés. Et regardez ce qui est écrit, tous étaient guéris, tous. Vous ne trouvez plus ça dans la suite. Le tous, où le 100% de guérison existait, après vous ne le trouvez plus. Il y a eu bien sûr, acte 6, des petites brouilles entre l'organisation de l'Église, les veuves des uns étaient délaissées par rapport à d'autres, etc. Il y a eu des couacs. Mais au début, quand la koinonia était à 100% intacte, avec un engagement à 100%, eh bien, il se passait quelque chose de vraiment puissant. Frères et sœurs, je voudrais que ce niveau-là revienne dans nos cœurs, dans l'Église. Que nous puissions viser ce niveau-là, pas plus bas, mais que nous puissions dire, Seigneur, ça, on le veut aussi. Est-ce qu'on veut dire ce matin, ça, on le veut aussi? Amen. Regardez la phrase suivante que j'ai mise. Nous n'imaginons pas la puissance de la koinonia. Nous n'imaginons pas la puissance de la communion spirituelle intense que je vais développer dans quelques instants, dans plusieurs aspects différents, dans l'Église. Et j'aimerais dire que dans la communion que nous avons, j'aimerais dire qu'il y a une grande protection, il y a une grande grâce. Lorsque nous sommes connectés les uns aux autres, déjà au niveau de la prière. Et j'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des personnes ici qui ne seraient même plus en vie s'ils avaient été tout seuls. Mais ils sont encore là parce que le Saint-Esprit a demandé à des gens de prier pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sont vivants aujourd'hui. Le Seigneur utilise la communion entre frères et sœurs afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons protégés, que nous soyons gardés. Combien de personnes ont été subitement, ont reçu une impulsion du Saint-Esprit, va prier. Et on ne sait pas pourquoi. Ils ont prié en langue, on ne sait pas pourquoi, mais on doit prier. C'était parce qu'il y avait une urgence quelque part. Et peut-être plus tard, vous apprenez que telle ou telle personne a été gardée d'un accident. Un pasteur que j'ai très bien connu annonçait un dimanche matin, écoutez, merci de prier pour moi parce que je vais subir une opération dans l'oreille interne, telle et telle date. Et voilà que dans son annonce, il se trompe de date. C'était une mauvaise date, c'était une semaine plus tard. Et l'opération avait lieu une semaine plus tôt. Donc les gens ont pris note de la date, mais la koinonia a fonctionné. Un jour, une personne était en prière, c'était une femme dans l'église, de son église, était en prière, et tout à coup le Seigneur dit, tu vas prier pour le pasteur, maintenant, maintenant. Et elle a pris un temps de prière, elle sentait un fardeau, elle a prié, elle a pas juste fait une prière, Seigneur bénis mon pasteur, amen, puis elle est partie. Elle a vraiment pris le temps nécessaire. C'était à ce moment-là qu'avait lieu l'opération. L'église croyait que c'était la semaine après. Mais elle avait été avertie par le Saint-Esprit que c'était maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'opération de l'oreille interne, le chirurgien n'arrivait pas à fixer la chose, n'arrivait pas à avancer dans la délicatesse de ses osselets, etc., qu'il devait mettre en place. Et tout à coup, il dira, je ne sais pas comment, mais ça s'est remis en place. La prière, la koinonia a fonctionné. Alléluia. Écoutez encore une histoire missionnaire. J'aime les histoires missionnaires. Une histoire vraie. Un missionnaire était en Afrique et il devait faire un long voyage dans des pistes poussiéreuses et il avait pris suffisamment de nourriture et de boissons. Et donc, il devait exercer le ministère plus loin, à bien des heures de voiture. Mais voilà que le trajet était beaucoup plus long que prévu. Et la chaleur était intense et voilà qu'à un moment donné, toute l'eau qu'il avait emmenée avait été utilisée. Tout était parti. Il avait soif. Il dit, mais je n'ai pas le choix, je dois m'arrêter quelque part et boire quelque chose. Donc il s'arrête quelque part et il trouve de l'eau, il boit l'eau qu'il trouve. Simplement parce qu'il avait une soif désespérée et il avait ce besoin absolu de boire. Mais voilà que le soir même, lorsqu'il est couché, eh bien la fièvre tombe sur lui. Il a une fièvre incroyable et il est accompagné, ils sont deux. Et la personne se dit, mais ça c'est la malaria, et il a bu de l'eau qui était mauvaise, infectée. Que faire? Nous sommes vraiment au milieu de nulle part ici. Que faire? Il a prié pour lui. Et la fièvre montait, il commençait à délirer, il transpirait. Et là, il a une vision. Il ne sait pas si c'était, de quelle manière ça s'est passé, mais il a vu un drap noir descendre du ciel sur lui. Et il a compris, c'est la fin. Il allait partir dans un coma. Et au moment où le drap se pose sur sa tête, il voit le visage d'une femme. C'était une femme de sa petite église en Allemagne qui l'avait envoyé. C'était une petite communauté qui l'avait envoyé en mission. Il a vu une femme qui l'appelait et il a su qu'elle priait pour lui à ce moment même. Et à partir de ce moment-là, la fièvre est tombée. Il a été sauvé, c'est devenu un grand évangéliste. Eh bien, la koinonia, mes amis, la koinonia fonctionne. La koinonia fonctionne. Pour vous dire un exemple plus récent encore, une de nos filles devait passer son examen il y a une année en arrière. Et bizarrement, ce dernier examen, elle était motivée, tout le temps motivée, mais ce dernier examen lui paraissait insurmontable. C'était juste incroyablement difficile. Il y avait comme une lourdeur sur elle. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle avait qu'une seule chose dans sa tête. Il faut que j'arrête. Je veux arrêter tout. Donc, elle allait gâcher, finalement, toutes les années d'études à la veille de l'examen final. Il y avait que ce poids sur elle, ce découragement. Mais au même moment, des gens priaient. Ses parents, bien sûr, mais d'autres personnes aussi priaient. Et tout à coup, ça a donné le tour. Tout à coup, cette lourdeur est partie. Et elle s'est ressaisie, elle a repris courage et elle a réussi l'examen. Alléluia. La koinonia, frères et sœurs, vous n'imaginez pas la puissance qu'il y a dans la koinonia. Vous êtes malheureux si vous êtes tout seul. Même tout seul avec votre Dieu. Ça ne suffit pas, mes amis. La koinonia, la communion spirituelle dans les actes, c'était ça qui faisait l'impact de cette église dans la population et dans la société de l'époque. La koinonia est donc un effort. Et donc un appel et un don du Seigneur, mais demande toujours un effort. Il persévérait dans la communion fraternelle. Toute communion humaine et spirituelle, je dis bien humaine et spirituelle, parce que les deux sont à considérer, se base sur une volonté et un désir de cœur et exige un effort. Encore une fois, vous ne pouvez pas tout attendre, que ça vous tombe dessus comme cela. C'est possible par le Saint-Esprit. Ce qui est difficile au niveau humain est possible par le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez un exemple tout naturel. Dans le livre des Actes, chapitre 3, vous voyez un petit duo travailler ensemble. Comment il s'appelle? Comment est-ce qu'il s'appelle, Actes 3? Les deux gars qui sont toujours ensemble, Pierre et Jean. Pierre et Jean. Vous les voyez arriver dans le temple pour prier. Vous les voyez se tourner vers le boiteux pour le guérir, vous le voyez imposer les mains ensemble, ils sont envoyés pour amener le réveil dans des régions. Pierre et Jean, nous dit l'Écriture, étaient très différents. Ils avaient des caractères bien plantés. Ils étaient rivaux, ils se comparaient, ils avaient bien des problèmes à résoudre. Ils étaient jaloux l'un sur l'autre, ils avaient un caractère très peu compatible. Vous connaissez des gens avec qui vous avez un caractère peu compatible ? Humainement, c'est difficile de travailler ensemble. Mais c'est possible par le Saint-Esprit. Il faut le vouloir. Et si Dieu a pu mettre ensemble Pierre et Jean, tellement différents, pourtant ils étaient pêcheurs tous les deux, ils venaient du même lac de Galilée, mais ça ne change rien. Ils étaient tellement différents dans leur vision, dans leur caractère, dans leurs habitudes, mais ils ont fonctionné ensemble par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce qui est difficile au niveau humain, si nous laissons le Saint-Esprit nous transformer, si nous sommes d'accord de nous plier afin que notre caractère meure à la croix et que la vie du Saint-Esprit émerge en nous et que nous soyons soumis au Seigneur, alors l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Vous pouvez vous entendre avec quelqu'un où humainement, ça fonctionne difficilement. Regardez maintenant les définitions que j'aimerais courtement aborder, parce que koinonia, qui veut dire communion, veut dire premièrement les choses que nous avons en commun. Deuxièmement, veut dire la communication. Troisièmement, ça veut dire être compagnon, partenaire ou ami. Et la dernière chose, et la cinquième, je vais parler très peu de cela, mais juste vous dire, il y a encore une dimension importante qui fait partie de la koinonia. Regardez la première. Qu'est-ce que nous avons en commun? Il y a un seul corps et un seul esprit. Vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous avons tant de choses en commun. Alléluia. Ne regardez pas tout ce que nous n'avons pas en commun. Regardons ce que nous avons en commun et chérissons ce que nous avons en commun. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, j'ai tellement de choses en commun avec toi. J'ai tellement de choses en commun avec toi. Le même Seigneur, la même Bible, le même ciel, le même avenir, le même Saint-Esprit, la même bénédiction, la même joie, la même paix. Nous avons reçu les mêmes choses, le même héritage. Alléluia. Nous avons tant en commun. Ne regardons pas seulement ce qui pourrait nous séparer. Regardons d'abord ce que nous avons en commun. Les autres choses doivent être mesurées autrement. Nous avons finalement tout en commun les uns avec les autres. Apprécions ces choses et regardez le verset suivant. Il faut également protéger ces choses. Il faut protéger ces choses. L'apôtre Paul va dire, s'il y a une consolation, s'il y a plus de soulagement dans l'amour, s'il y a une union, une unité d'esprit, et si vous voulez augmenter en compassion et en miséricorde, alors ayez un même sentiment, une même âme, un même amour et une même pensée. Il faut que ce travail soit fait. Frères et sœurs, l'ennemi de la koinonia, ce n'est pas avant tout le diable qui aime diviser. Mais l'ennemi de la koinonia, écoutez bien, c'est souvent nous-mêmes. Notre style de vie égoïste et égocentrique et indépendant et individualiste, c'est ça le vrai problème de la koinonia. Nous voulons protéger ce que Dieu aime ce matin, en priant les uns pour les autres, en témoignant de l'amour et bien sûr aussi en suivant les points suivants que je vais vous présenter maintenant. La première chose donc, c'est ce que nous avons en commun. Koinonia, c'est ce que nous avons en commun. Deuxièmement, c'est la communication. Avez-vous remarqué que parfois la communication est compliquée parce que entre ce que vous voulez dire et ce que vous dites vraiment, entre ce que l'autre entend et ce qu'il comprend, ce qu'il croit que je veux dire et ce qu'il me redit, il y a au moins 5 possibilités de se tromper. Avez-vous remarqué que des fois on communique sur 2 planètes différentes? Vous parlez avec votre épouse, votre mari, mais vous dites, mais il habite à Mars et moi j'habite à Vénus. Il est sur la Lune et moi je suis sur la Terre. Vous avez l'impression de parler avec vos enfants, mais vous expliquez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça n'est pas compris. La communication est un vrai challenge, un vrai défi, tout le temps. Pas facile de communiquer. Il y a tant de possibilités de malentendus, de sous-entendus, d'incompréhensions, et parfois, et je veux le dire ce matin aussi, d'hypocrisie dans l'Église. Parce que quand vous dites une partie de la vérité devant une personne et que vous dites l'autre partie de la vérité derrière la personne, vous ne trouvez pas que c'est de l'hypocrisie, ça? Lorsque vous dites une chose et que vous dites une autre derrière, c'est de l'hypocrisie. C'est un péché. C'est un péché. Même si la communication n'est pas toujours simple, l'apôtre Paul a beaucoup de choses à dire dans les Éphésiens et dans d'autres lettres que nous devons dire la vérité dans l'amour, mais la vérité. Pas dire une partie et puis finalement le gros du morceau qu'on voulait dire, on le dit par derrière à d'autres pour se faire des alliés, pour que... C'est ça la division, c'est le ferment de la division. La communion fraternelle est toujours un risque. Il y a toujours un risque. Et je voudrais m'adresser à ceux qui sont peut-être déçus par la communion fraternelle. Il y a des personnes aussi qui cherchent des communautés où ils peuvent justement échapper à quelque chose qui les a blessés pour être dans un autre lieu où la communion sera meilleure. Frères et sœurs, si vous apportez la koinonia, vous allez forcément bénéficier d'une bonne koinonia. Vous allez forcément être les premiers bénéficiaires d'une bonne communion. Mais n'attendez pas que l'Église soit parfaite. Sinon, pourquoi apprendre la dimension du pardon, de l'amour, de se supporter, de s'aimer, etc. Nous sommes à l'école du pardon, à l'école de se supporter, à l'école de faire grâce, d'être patient les uns avec les autres, etc. Nous sommes dans cette école et ça se vit au sein de l'Église aussi. Retrouver le chemin vers le cœur de l'autre passe par un effort de communication. Et au sein de l'Église, où nous avons tellement de projets que nous menons et de choses à vivre pour le développement de l'Église, la communication fait partie des grands points en tête de liste en toutes choses. Plus il y a de monde, plus il faut communiquer. C'est un grand travail, n'est-ce pas? C'est un grand travail qui passe par l'écoute, la patience, la persévérance, l'humilité et bien sûr le pardon. Le pardon est toujours libérateur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je pense à des personnes qui ont dit dans leur cœur, moi je ne vais plus nulle part, parce que j'ai été trop déçu, j'ai été trop blessé, on m'a trop trahi. Et ils restent seuls, peut-être simplement devant un écran, où ils peuvent suivre des cultes, écouter des messages. Et certains ont même dit, plus jamais je ne me confierai à quelqu'un. Je voudrais vous dire, si vous avez prononcé ce genre de paroles, vous êtes lié par ces paroles. Vous devez être libéré de ces paroles. Vous devez sortir de ce, filet qui est sur vos vies et qui vous empêche d'entrer dans le plan de Dieu et qui vous garde d'une guérison, qui vous empêche de guérir vraiment. Et des personnes qui restent blessées toute leur vie parce qu'ils ont refusé de quitter ce lieu où ils se sont barricadés dans leur solitude par peur de se confier encore une fois. Frères et sœurs, vous ne trouverez jamais personne qui va être entièrement capable de rejoindre le fond du fond du fond de votre cœur. Seul Dieu peut faire ça. N'attendez pas des gens ce que Dieu seul peut faire. Cependant, et ce sera le point suivant de notre koinonia, il y a aussi un cadeau pour vous qui s'appelle l'amitié. L'ami qui fait confiance, l'ami qui est un confident. Passez à l'image suivante qui est justement sur le troisième, peut-être qu'il y a encore un deuxième point, oui, effectivement. Juste aussi dire que la koinonia, la communication, c'est bien plus qu'un échange d'informations. D'établir un programme, de faire avancer l'ordre du jour et de construire une vision ensemble. La koinonia, c'est un partage de cœur à cœur dans la confiance. C'est plus qu'un échange d'informations. Ça va plus loin que ça. La communication, c'est s'intéresser, se soucier, s'accepter, s'écouter, se comprendre, se bénir, s'aimer. Je disais aux frères à la montagne hier qu'entre pasteurs, on se téléphone très souvent, les uns avec les autres. Et une chose qui est remarquable, c'est qu'on reçoit quand même rarement un téléphone, je vous le dis honnêtement, où on me téléphone ou bien quelqu'un, j'ai demandé la même question, j'ai posé la même question à d'autres qui sont du même avis que moi. On reçoit rarement un téléphone qui dit « Allô, c'est Walter ? Oui ? Comment vas-tu ? » Tu ne me demandes pas un téléphone ou une information, tu me demandes « Non, comment vas-tu ? » Alors que souvent, nous sommes sollicités pour des besoins, pour aider, pour communiquer, pour transmettre, etc., des informations. Mais la communion, la koinonia, c'est s'intéresser à la personne. Ce n'est pas seulement échanger des informations, c'est s'intéresser cœur à cœur à quelqu'un, savoir prendre du temps pour l'écoute. Frères et sœurs, je voudrais donner simplement ces impulsions ce matin, que nous puissions réfléchir ensemble. Ensuite, les textes qui vont avec, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On va plus loin, je ne vais pas lire tous les textes qui sont là. La troisième définition de koinonia, ce que nous avons en commun, la communication maintenant, c'est être compagnon. Les textes sont extraordinaires là-dessus aussi. Et nous avons cette notion de l'association. Voyez-vous, la koinonia va toujours un point plus haut. Nous allons plus loin encore que la communication. Il nous est dit dans les textes, par exemple, 2 Corinthiens 1,7, il nous est dit « Notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que vous avez part aux souffrances. Vous êtes solidaires de la souffrance, alors vous avez aussi part à la consolation. » Donc il y a la notion de la solidarité, de l'amitié qui va être notée maintenant dans cet aspect-là. Nous sommes associés, nous sommes dans un engagement. Nous sommes dans un engagement. Juste quelques textes, tu peux les mettre tous les trois. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils étaient sous pression dans la persécution, ils savaient vers qui ils pouvaient aller. Ils allaient vers les leurs, c'était leur famille, c'était les leurs, c'était ceux avec qui ils avaient confiance. Ils savaient qu'ils avaient une maison spirituelle. Frères et sœurs, savez-vous que vous avez une maison spirituelle? Vous pouvez choisir l'église de réveil comme votre maison spirituelle et nous allons faire le maximum pour vous aider à bien vivre cela, à grandir dans votre communion spirituelle ensemble. Mais apportez vous-même votre contribution dans votre famille spirituelle, là où Dieu vous place. Cet homme dans Jean chapitre 5 disait, lorsque Jésus le voit couché au bord de la piscine de Bethesda, Jésus dit « Veux-tu être guéri ?» Cet homme va répondre « Je n'ai personne, je suis tout seul. » Je suis là depuis 38 ans et on m'a complètement oublié. Je fais partie du décor. On ne me voit plus. Personne ne s'intéresse et ne s'arrête plus vers moi. Frères et sœurs, j'espère que personne n'est là ce matin au milieu de nous qui a ce cri du cœur pour dire « Moi non plus, je n'ai personne sur qui je peux compter. » J'aimerais vous dire ce matin, vous pouvez demander à Dieu un ami, un confident et je suis certain que vous en trouverez un. Vous le trouverez. Le Seigneur vous donne la possibilité de grandir de la koinonia pour que vous ayez un associé, un compagnon d'œuvre, un ami, un ami, c'est quelqu'un, comme dit les proverbes, qui va vous donner d'être attaché à quelqu'un, qui va vous donner de la douceur, qui va penser vos blessures et qui va être fidèle, qui va vous donner des conseils affectueux, qui va vous aimer en tout temps et qui ne va pas vous abandonner. Alléluia. Est-ce que cette personne rarissime, est-ce qu'elle existe encore ici? Un ami. Peut-être tu te dis ce matin, moi je n'ai pas d'amis. Sois l'ami de quelqu'un. Deviens l'ami de quelqu'un. Vous dites peut-être, mais moi je n'ai pas d'amis, personne ne s'arrête sur mon chemin. Commence à t'arrêter sur le chemin de quelqu'un. Personne ne m'invite. Pourquoi tout le monde m'oublie? Invite quelqu'un. Personne ne m'écrit un message. Mon téléphone reste muet toute la journée. Téléphone à quelqu'un. N'attends pas que tout tombe dans tes mains. Sois acteur de ta destinée. Sois acteur de ta destinée. Fais un effort. C'est un don, mais c'est un effort en même temps. Est-ce que nous disons oui à cela? Lorsque j'ai visité les États-Unis il y a quelques années, pour visiter un jeune stagiaire que j'ai formé à Vevey et qui a travaillé avec moi quelques années, il est maintenant pasteur à Atlanta, aux États-Unis, et une des premières questions qu'il m'a posées, mais comment faites-vous pour garder vos jeunes dans l'église? Parce que nous, on a tous les programmes, on fait tout ce qu'on peut, mais les jeunes partent. Beaucoup de jeunes partent. Beaucoup trop de jeunes quittent nos églises. Et lorsque nous avons voyagé pour nous arrêter en Pennsylvanie, dans le pays des Amish, je voulais absolument voir ça, j'ai constaté quelque chose de très intéressant. C'est qu'à l'âge de 18 ans, les Amish, qui vivent dans une espèce de sous-culture fermée, où ils sont extrêmes, ils ont des valeurs extraordinaires, mais tout ça, c'est un petit peu en vase clos. Eh bien, leurs jeunes sont obligés de suivre le mouvement, ils suivent la culture, ils sont dans un style d'église des années 1800, etc. Et puis, à l'âge de 18 ans, les parents leur donnent la liberté de partir aux États-Unis, de voir le monde, de changer d'habit, d'avoir des portables, d'aller danser, d'aller boire. Ils peuvent sortir de la culture Amish pour aller aux États-Unis. Vous savez qu'en laissant les jeunes libres comme ça, il est prouvé que 85% des jeunes reviennent chez les Amish. Pourquoi? Parce qu'il y a une solidarité incroyable qui fait que quoi qu'il se passe, si je suis dans mon peuple, au sein de notre royaume, je sais qu'on va toujours pourvoir à mes besoins, qu'on ne va jamais me laisser tomber. Vous savez, la koinonia, c'est plus que des réunions, c'est plus que de la bonne musique, c'est plus que des beaux programmes. C'est une vraie amitié, une association, un engagement les uns envers les autres. Les Amish, quand il y a une maison qui brûle, le lendemain, vous avez une centaine de personnes qui arrivent, qui débarrassent, et après, il y a encore 100 autres qui arrivent, et ça va reconstruire votre maison en une semaine de temps. Lorsqu'un enfant est malade, il doit aller à l'hôpital, toute la communauté Amish va faire des récoltes d'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Et il y a cette solidarité qui fait partie de la koinonia. Frères et sœurs, nous avons encore un chemin à faire par rapport à cela. Aujourd'hui, commence à être l'ami de quelqu'un. Commence à être l'ami de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre cet appel que je fais ce matin à cœur? Deviens l'ami de quelqu'un. Propose ton service, ton amitié, simplement et naturellement. Je voudrais maintenant parler du dernier point et m'arrêter là. Le quatrième point, première chose donc, ce que nous avons en commun. Deuxième chose, la communication, l'échange, l'effort de se comprendre. Ensuite, l'étage supérieur, c'est l'engagement de l'amitié qui est un engagement de personne plus grand encore, qui nous permet de compter sur l'autre. Et il y a un aspect encore plus important que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et les textes sont les suivants. Sur les 8 mots employés pour les mots koinonia, koinonia, etc., 4 se rapportent aux choses matérielles. Regardez les textes. Par exemple, il est dit, la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Une contribution financière, c'est koinonia. Ils ont, je l'atteste, dira l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 8, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part, koinonia, à l'assistance, la diaconie, destinée aux saints. Ça veut dire qu'il y a une participation matérielle, prise en charge, qui fait partie de la dimension de la communion spirituelle entre frères et sœurs. Lorsque nous faisons une offrande, nous ne faisons pas une aumône ou une quête, c'est une offrande d'amour, toujours. C'est un acte spirituel qui est lié intimement à la koinonia, à la communion spirituelle. Alléluia. Vous n'imaginez pas la force qu'il y a dans la koinonia. Je termine par la dernière pensée que j'ai eue pour cette thématique-là. Il y a des personnes qui vivent une communion formidable dans les cultes. Vous êtes heureux dans les cultes, vous vivez quelque chose de magnifique. Cette communion communautaire vous booste, vous encourage, vous stimule pour la semaine. Et voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Beaucoup rentrent à la maison et tout ce qu'ils ont reçu, toute la motivation qu'ils ont reçue, tombe à zéro. Parce qu'à la maison, c'est le vide. C'est l'anti-koinonia qui vous attend. C'est le contraire. C'est trop d'incompréhension, trop de malentendus, trop de conflits, trop de situations difficiles et lourdes qui brisent la koinonia. Et ce matin, je veux prier pour ça justement.